L'Afrique en jeu, Silver Henry Cissé.
Ladies and gentlemen,
mesdames et messieurs,
I have a great honor to
d'annoncer d'annoncer que le comité olympique international a simultanément élu la ville d'accueil des Jeux des 33e Olympiades et la ville qui accueillera les Olympiades 34 en 2028. Paris en 1924, Los Angeles en 2028.
L'émotion est palpable dans la voix de Thomas Barr, le président du Comité international olympique. Plus encore, pour les Parisiens et pour les Français présents à Lima, la capitale du Pérou, où se tenait l'Assemblée générale élective. Après les échecs des candidatures de Paris 2008, Paris 2012, l'histoire retiendra que ce 13 septembre 2017, Paris 2024 et Los Angeles 2028 décrochèrent une double attribution. M'est avis que l'émotion sera identique le 26 juillet au lancement de la cérémonie d'ouverture. Mais avant cela, prenons un peu de recul et posons-nous les questions qui nous concernent dans l'Afrique en jeu. Quelle organisation autour des pays africains qui participent aux compétitions? Quels sont les engagements à l'international de Paris 2024? Coopération, partenariat, solidarité, quelle place pour l'Afrique dans le dispositif du comité d'organisation? Eh bien, nous en parlerons avec Sophie Laurent, directrice des relations internationales Paris 2024. L'Afrique en jeu, c'est aussi le portrait d'une femme inspirante avec Cécile Faye, directrice planification et coordination Dakar 2026. Une photo, une histoire, nous allons nous intéresser avec l'historien Pascal Charitas à Jean-Claude Ganga, grande figure méconnue de l'olympisme africain. L'Afrique en jeu, J-20, oui déjà J-20, c'est maintenant. Sophie Laurent, vous êtes directrice des relations internationales de Paris 2024. Que de chemin parcouru depuis Lima et l'obtention des Jeux pour Paris, c'était en 2017. Quel souvenir vous revient de cette soirée si particulière ?
C'était le 13 septembre, je me souviens exactement de l'emplacement de la salle. Et ce sentiment, même si on savait qu'on avait gagné, le fait d'entendre Thomas Barr dire officiellement Paris 2024, Los Angeles 2028, eh bien moi personnellement, mon corps a fait boum boum. Mais surtout, ce qui était palpable, c'était cette émotion partagée et cette unité au sein de toute la délégation. Cette unité qui aujourd'hui, on mesure à quel point elle est importante.
Est-ce que l'Afrique était déjà dans votre scope lors de la candidature et de quelle manière ?
Alors l'Afrique a toujours été dans notre scope, tout simplement parce qu'il y a des membres du CIO qui participent, qui sont issus du continent africain. Et en allant les voir, notamment deux d'entre elles, il s'agit de la membre du Djibouti, Aïcha Garad Ali, et puis du Zimbabwe, Kirsty Coventry.
La ministre des Sports.
Et grâce à elle et grâce à tant d'autres aussi, on a pu améliorer notre projet pour les athlètes et pour les comités olympiques.
Venons-en à ce qui va se passer dans quelques jours à Paris. Qui travaille sur l'Afrique chez vous, dans votre département? Et comment ça se matérialise?
Alors, il y a deux départements qui sont directement en lien avec l'Afrique. Le premier, c'est la coopération internationale. C'est évident. Donc, c'est l'héritage international. Deuxième département, c'est celui des relations avec les comités olympiques et paralympiques du monde et de facto par le continent africain. Et là, on a une équipe dédiée à l'Afrique. 7 personnes qui sont une équipe pour les Jeux olympiques, une équipe pour les paralympiques.
Avec le compte à rebours qui a débuté, le plus dur commence pour vous dans quelques jours avec l'accueil des délégations. C'est une organisation colossale que vous devez mener. Les choses sérieuses commencent quand pour vous, Sophie, avec vos équipes?
Alors, pour être très honnête, les choses sérieuses ont commencé le 14 septembre 2017. Mais plus concrètement, la planification est terminée, les équipes sont formées et les délégations, chefs de délégation, commencent à partir du 12 juillet. Et donc, très rapidement.
Est-ce que vous avez des dispositifs particuliers pour les, entre guillemets, les petites délégations?
Alors, d'abord, nous, on a une éthique. On met autant d'énergie dans les grosses délégations que dans les petites délégations. Cependant, il faut savoir que le CIO a un programme spécifique qui s'appelle le Solidarité Olympique à destination de ces petites délégations. Et donc, elle est de deux ordres. Elle est d'un ordre, on va dire, financier tout d'abord, où ils aident financièrement à ce que des personnes puissent venir, des petites délégations autour de 6 personnes. Et puis, d'un autre ordre, mais très important aussi, c'est-à-dire que certains pays, certains comités n'ont pas d'athlètes qualifiés. En tout cas, n'ont pas passé les tests, on va dire, pour être qualifiés. Et donc, on y a un système d'universalité. Et donc, le CIO, à travers les fédérations, donne des cartes qu'on appelle les cartes d'universalité. Ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Sur les Jeux Para, c'est un petit peu différent. Ouais. Il n'y a pas d'enjeu financier, malheureusement.
Certes, il y a l'organisation dont nous parlons, mais il y a également l'héritage, c'est-à-dire la trace que les Jeux vont laisser dans notre société. Et vous avez une partie spécifique qui est consacrée à l'Afrique. En matière d'héritage, quels sont les faits notables que vous pouvez mettre en avant?
Alors, on est très fiers à Paris 24 de l'héritage international qu'on a mis. Et le focus est vraiment donné sur l'Afrique parce qu'on a une convention avec l'AFD, l'Agence française de développement. Et c'est grâce à cette convention qu'on a pu faire beaucoup de choses, notamment de mettre en place des projets, 45 projets sur 19 pays ciblés sur l'Afrique, qui s'appelle Impact 2024 international. Et avec ce projet-là, en fait, on a réussi à trouver des financements pour donner des projets spécifiquement sur la contribution du sport aux objectifs de développement durable.
Alors, combien de projets financiers, vous l'avez dit, c'est 45?
45.
Pour quel montant? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de réalisation sur le terrain?
Alors, 45 projets sur 19 pays, un appel à projet, c'était 4 appels à projet, où il y a 19 pays ensemble.
19 pays, 4 appels à projet.
Exactement, et autour de 2 millions d'euros. Chaque projet a reçu à peu près entre 5 et 50 000 ou 100 000 euros. L'important, justement, c'était d'apporter des petites sommes. L'AFD a l'habitude de donner des très grosses sommes. Là, c'était des petites sommes et c'est un dispositif très particulier.
Et vous allez faire un suivi aussi de ces
contributions? Il y aura un suivi, oui. Cette fois-ci pas par Paris 24, puisque nous allons disparaître, et c'est normal, mais par le CIO. Le CIO a organisé une convention avec l'AFD et fait que cette dynamique sera lancée. Mais je vais vous donner un exemple, oui. Parce qu'un exemple qui est vraiment exceptionnel, qui s'appelle Boxing Girls Kenya. Oui. Et c'est une ONG qui a un projet à destination des filles sur la santé mentale de ces jeunes filles qui ont été victimes d'abus sexuels pour devenir soit des sportives, soit justement avoir un cadre, ou pratiquer un sport dans un cadre bienveillant.
Bienveillant avec la résilience, hein, après ce que ces femmes ont vécu. Vous savez, dans nos pays, parfois, l'argent disparaît subitement comme ça, n'est-ce pas? On n'a plus de traces. Quand je dis qu'il y aura un suivi, est-ce que vous irez jusqu'au bout du suivi? C'est-à-dire que cet argent arrivera aux bénéficiaires, et notamment à ces femmes au Kenya?
Alors, vous pouvez faire confiance à AFD pour vraiment vérifier que chaque centime qui est dépensé sur le terrain.
Vous vous sentez comment aujourd'hui, à quelques jours là, du début des Jeux Olympiques?
Honnêtement, j'ai une super équipe. On a un super projet. Pas stressé, juste concentré.
Parce que c'est colossal quand même comme organisation.
Mais on va y arriver, ce sera magnifique.
Bon, on compte sur vous. Nous allons partir à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez très très bien, Sophie Laurent. Mais restez avec nous pour que vous puissiez entendre une femme que je trouve vraiment inspirante et qui est formidable.
Une femme, un destin.
Bonjour Cécile Faye.
Bonjour.
Vous connaissez bien Sophie Laurent puisque vous travaillez main dans la main avec elle. Merci de nous joindre depuis le Sénégal. Vous êtes directrice de la planification et de la coordination des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. Je tenais vraiment à ce que l'on vous reçoive car vous êtes dans l'ombre, vous n'êtes pas dans la lumière et pourtant... Votre rôle est essentiel pour la livraison des Jeux Olympiques de la jeunesse. En quoi consiste-t-il, ce rôle?
Merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé de Sophie. Sophie, elle fait partie des personnes qui m'inspirent. Effectivement, je suis directrice de la planification et de la coordination. C'est un rôle de suivi permanent au quotidien de tout ce qui contribue à la planification en direction des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, je travaille avec tous les départements pour voir si tout ce qui est attendu de nous est en train d'être réalisé à la date qui convient.
Vous êtes un exemple de la méritocratie sénégalaise puisque vous êtes la gardienne du temple à Dakar 2026, un rôle que vous connaissez très très bien puisque vous venez du handball, vous étiez gardienne, Cécile. En fait, le sport est toute votre vie. Quelles étapes avez-vous franchies pour arriver à Dakar 2026?
Oui, je suis gardienne du temple parce que j'étais gardienne de but quand je jouais au handball. C'était peut-être prémonitoire. Je suis professeure d'éducation physique de formation. Donc, depuis le jeune âge, je suis dans le sport. J'ai enseigné pendant une vingtaine d'années et après, j'ai rejoint l'administration centrale où j'ai forgé mes armes au ministère des Sports, à la direction des sports, ensuite comme directrice du stade Léopold Sédar Senghor, le stade national, où j'ai rencontré vraiment plein de gens, surtout lors des grandes compétitions internationales de football que j'ai eu à organiser entre 2012 et 2020.
Et pour en arriver là où vous vous êtes formée à l'organisation des grands événements sportifs. Vous avez suivi un cursus de formation, Cécile?
Oui, d'abord j'ai eu le MEMOS, le Master Exécutif pour le management des organisations olympiques. Ensuite, j'ai suivi à l'Université de Péloponnèse avec l'appui du CIO et l'Académie internationale olympique, le Master en études olympiques en organisation d'événements olympiques de grande envergure.
Ce qui est très important dans cette émission L'Afrique en jeu, et notamment dans Une femme, un destin, c'est de montrer que des femmes sont des rôles modèles tels que vous et que la formation est importante et nécessaire. Et ça, c'est ce qu'on dit à toutes les jeunes filles qui nous écoutent en ce moment. La formation est très importante. Vous avez enseigné pendant 20 ans. Que vous ont apporté ces 20 ans d'enseignement dans cette tâche que vous menez aujourd'hui à Dakar 2026?
Ce que ça m'a apporté, c'est le fait de s'attacher à la personne qu'on forme. On lui inculque des connaissances dans l'espoir que ces connaissances seront mises en œuvre et rendues comme on les a données aux personnes qu'on a en face de nous. Et cela se reflète maintenant dans l'académie quand je vois les jeunes que j'ai pris en main depuis 2019 et qui maintenant font le travail que je faisais avec eux au début. Cela est très revalorisant. Et en tant que coordonnatrice aussi au niveau du COJO, ça m'aide beaucoup parce que j'ai l'habitude de me frotter à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de nous rejoindre au niveau du COJO et ce rôle d'éducateur m'a beaucoup apporté.
Bon, Cécile, qu'est-ce qu'il faut faire pour décrocher un job comme le vôtre? Il faut être une team leader comme vous? Il faut avoir ce tempérament de feu? Donnez-nous le truc, le secret, c'est quoi?
Il faut d'abord avoir l'habitude du monde sportif, l'habitude du mouvement olympique. Il faut également beaucoup de cran pour gérer des personnes de sensibilités différentes. Mais il faut aimer ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est primordial. C'est la première chose à faire. Quand on aime ce qu'on fait, on a le plaisir de transmettre, de partager ses connaissances et d'être dans un environnement qui nous plaît.
Vous avez une position de vigie, car vous êtes du projet Dakar 2026 depuis la désignation de la capitale du Sénégal en 2018. Et en cela, vous retrouvez, Sophie Laurent. Qu'est-ce que vous ressentez?
Alors, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je suis en train de grandir et ça me fait un peu... Tantôt j'ai peur, tantôt je suis heureuse de savoir que j'ai été au début de ce projet qui est en train de grandir et qui va vers sa réalisation. Et je vous dis que, bon, dès demain, je serai à Paris parce que je suis en détachement là-bas pour aller en immersion et apprendre de Paris 24. Je me dis que ce projet que j'ai porté est en train de cheminer et ce que je souhaite le plus, c'est que ce soit une réussite pour non seulement les jeunes qui sont derrière moi, mais pour tout le Sénégal et pour toute l'Afrique.
Djélé Djeff, Cécile Faye, merci et à bientôt.
Merci à vous, à très bientôt, au revoir.
Vous écoutez L'Afrique en jeu sur RFI avec Sylvère-Henri Cissé.
Je vous ai vu, Sophie Laurent, vous qui êtes la directrice des relations internationales de Paris 2024, vous étiez très émue à l'écoute des propos de Cécile Faye. Vous avez une proximité avec l'organisation de Dakar 2026, on l'a bien compris. Comment se matérialise cette proximité?
Ça fait des années qu'en fait que je côtoie Cécile et c'est toujours un bonheur et de l'écouter et de la partager parce que c'est une femme de conviction et d'amour. Et donc c'est quelque chose de cohérent.
Comment vous travaillez avec Dakar 2026?
Alors, on a une convention qu'on a fait en 2020 avec Dakar, qui est une convention entre COJO. Et l'objectif c'est un partage, c'est un échange, aussi bien au niveau des moyens que des ressources. Et donc effectivement, Cécile va en bénéficier puisqu'elle va être ce qu'on appelle secondise, c'est-à-dire elle va être en immersion pour apprendre un peu, pour vivre qu'est-ce que va être son métier pendant les Jeux.
Et qu'ils seront importants ces Jeux puisque ce seront les premiers Jeux olympiques sur le continent africain, 35 sports, 3000 athlètes, 10 000 officiels et 8 000 bénévoles, Dakar qui sera le poumon du continent. Quant à vous, vous avez déjà connu les Jeux olympiques, c'était à Londres 2012, vous étiez la représentante des CNO africains à Londres 2012. Avec votre vécu, qu'est-ce que vous allez apporter à Dakar 2026?
Alors concrètement, en fait, moi j'essaie d'apporter un cadre pour justement que les personnes qui viennent de Dakar 26 puissent vraiment puiser toute cette connaissance qu'ils vont avoir besoin pour créer des jeux exceptionnels. Et j'en suis sûre, ils vont créer des jeux exceptionnels. Ensuite, on a mis, au sein de ce cadre, une alliance. L'alliance Dioco, qui est un modèle complètement unique, qui est en fait une coopération internationale au vu d'un seul objectif, qui est le succès des jeux d'un événement sportif. Et là, dans l'occurrence, les jeux de Dakar 26.
Dioco, qui veut dire ensemble en Wolof. Est-ce que vous allez être hégémonique vu votre importance? Est-ce que vous allez être puissant par rapport à Dakar 2026? Est-ce que vous allez imposer des choses ou sera un travail en coopération? Vous allez observer?
Alors, Dioco, c'est justement un truc un peu spécial. C'est une gouvernance formelle, puisqu'au départ, c'était Dakar 26 et Paris 24. Et maintenant, on a passé la main à le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est Dakar 26 et le ministère des Affaires étrangères. Mais surtout, sur un cadre informel. L'objectif, c'était de mettre autour d'une table des personnes de bonne volonté, qui soient issues des différents ministères, mais aussi du monde sportif et du monde économique français, en vue de ce succès des Jeux. Et donc, l'objectif, c'était de faire suivre tous ces engagements et de vérifier que, régulièrement, les engagements qui étaient pris soient bien tenus. Je prends un exemple, qui est l'AFD, avec un prêt de 60 millions d'euros pour la rénovation d'infrastructures sportives, notamment, par exemple, le Star Imer Diop, mais aussi la piscine du Tour de l'Œuf. Et il y a aussi d'autres projets avec l'INSEP pour justement la formation et l'encadrement de cadres professionnels pour augmenter justement les participations.
Comment allez-vous faire, vous, en tant que directrice des relations internationales, avec tous ces geysers éruptifs qui sont très présents, tels que les conflits russo-ukrainiens, israélo-palestiniens et peut-être la comète de la Covid? Comment vous allez gérer ça? Parce que ce sont des problèmes vraiment prégnants.
Effectivement, on ne peut pas ignorer que les Jeux Olympiques de Paris 24 se passent dans un cadre très conflictuel, très compliqué. Le monde est divisé, mais justement, c'est tout l'intérêt de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. En tout cas, on dit souvent que le village olympique est le monde. Et dans ce village olympique, on va tout faire pour créer un havre de paix où les participants puissent se concentrer sur leur participation et en même temps rencontrer l'autre. On ne va pas faire fi des conflits, bien entendu, mais en tout cas, dans ce village et dans la participation, on va encourager les uns et les autres à échanger.
Vous êtes aussi en charge du protocole. Vous devez donc avoir des trésors de diplomatie pour faire en sorte que les Jeux se passent bien. Parce que bon, il y a des pays qui ne se supportent pas, d'autres qui se détestent, d'autres qui n'ont pas forcément envie de se côtoyer. Vous avez déjà une projection là-dessus?
Alors effectivement, on a quelques connaissances là-dessus pour éviter que certains chefs d'État soient assis à la place d'une autre personne. Enfin bon, on a quelques clés de lecture, mais objectivement, on travaille main dans la main avec les ministères des Affaires étrangères et l'Élysée et ça va bien se passer.
On va parler un peu de vous, Sophie Laurent, de la relation particulière que vous avez avec le continent. Vous le connaissez très très bien ce continent et vous entretenez une relation de proximité au-delà de vos fonctions.
En fait, mon premier boulot a été en Angola, quand j'ai travaillé pour une ONG de déminage humanitaire. Et ensuite, au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans à peu près 27 pays en Afrique. Mon mari a travaillé 5 ans au Maroc. Et moi, j'ai une passion pour la photographie, notamment par des artistes africains, et notamment Victor Omar Diop, grand photographe, mais aussi l'artiste kenyan Tandiwo Muriu, que j'adore.
Londres 2012, vous étiez la représentante des CNO africains. Quel est le souvenir qui vous revient en mémoire quand vous vous replongez dans cette séquence olympique qui était vraiment magique?
Alors déjà, franchement, j'ai créé des relations humaines incroyables qui perdurent jusqu'à maintenant. Toutes les personnes que j'ai connues à Londres, aujourd'hui, sont des personnes avec lesquelles je travaille au quotidien. Et ça, c'est un grand bonheur. Mais si je dois donner peut-être un exemple, quelque chose de mémorable, c'est peut-être le regard de cette athlète du Rwanda qui a eu l'opportunité d'échanger quelques mots avec la reine d'Angleterre au restaurant principal. Et ce regard incrédule d'avoir la reine d'Angleterre en face d'elle.
Attendez, vous nous dites que la reine d'Angleterre donc, se promenait dans le restaurant du village olympique, c'est ça? Et elle a pu discuter, échanger comme ça avec elle?
On a organisé une séquence assez dingue où effectivement la reine d'Angleterre a pu rencontrer quelques athlètes des 5 continents.
Si je vous soudoie, est-ce que vous pouvez m'organiser une séquence pour que je puisse rencontrer soit Victor Wembanyama ou soit LeBron James? C'est quelque chose qu'on peut arranger? Dites-moi.
Non,
vous êtes incorruptible.
Incorruptible.
Merci Sophie Laurent, c'était un véritable bonheur. On croise les doigts pour que ça se passe bien et ça va bien se passer et pour que les équipes africaines fassent des résultats. Ça, c'est extrêmement important. Merci à vous.
Merci à vous. Okay.
ti m'a dégé cherché en l'autre côté.
J'adore ce petit sourire de Kelly Apollin qui accompagnait Jean-Claude Nemro pour Aveo Doudou. Chaque semaine dans l'Afrique en jeu, nous vous racontons un épisode marquant inscrit dans l'histoire des jeux. Aujourd'hui, Jean-Claude Ganga, grande figure méconnue africaine de l'olympisme.
L'olympisme n'est pas une chose qu'on va montrer seulement à l'extérieur. L'olympisme se vit chez soi. Tant que les sportifs de l'Afrique du Sud pratiqueront la discrimination raciale, tant que les hommes qui habitent en Afrique du Sud n'auront pas le droit de pratiquer le sport de leur choix, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur conception religieuse, quelle que soit leur conception philosophique, et ceci conformément au règlement du Comité olympique international, je crois qu'il n'est pas pensable, qu'il n'est même pas dans notre idée de compter cette nation comme une nation sportive.
Le Congolais Jean-Claude Ganga répondait avec assurance et fermeté à Yaoundé, à la radio camerounaise en avril 1967, à la question de la politique raciste de l'Afrique du Sud. Le dossier sud-africain constitue la colonne vertébrale de l'engagement de Ganga. Des premiers Jeux africains à Brazzaville, au boycott des Jeux olympiques de Montréal en 1976, en passant par l'exclusion de l'Afrique du Sud de l'olympisme en 1970, il se montra inflexible quant à la lutte contre la discrimination et surtout au respect du continent africain qui était souvent mésestimé et parfois méprisé dans les instances internationales. Ganga reste à ce jour une grande figure africaine de l'olympisme. Son portrait, dans l'application Pure Radio de RFI, à la page L'Afrique en jeu, vous montrera le visage d'un homme qui était décrit par ses pairs, méthodique, rigoureux, travailleur, intransigeant, autant avec lui-même qu'avec les autres. Pascal Charitas, vous êtes historien du sport et de l'olympisme, enseignant-chercheur sur le sport en Afrique, maître de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Cette détermination que nous avons entendue dans la voix de Ganga était nécessaire face à un comité international olympique complaisant. Oui, on peut le dire, complaisant avec l'Afrique du Sud.
Alors oui, Jean-Claude Ganga, c'est un homme politique, c'est quelqu'un qui va développer le sport en Afrique au niveau du continent, mais aussi un responsable du mouvement olympique. Et il est déjà enseignant, puis ensuite il est inspecteur, puis directeur de la jeunesse et des sports de 67 à 68. Et il sera en effet l'un des cofondateurs du Conseil supérieur du sport en Afrique, donc créé en 66, et qui va en devenir le secrétaire général et qui va ainsi se saisir de la lutte contre l'apartheid en dehors du mouvement olympique pour en faire un enjeu de lutte à la fois pour rassembler le continent au niveau politique et sportif, parce qu'il ne faut pas oublier que le CSSA c'est une antenne politique de l'Organisation de l'Unité Africaine, donc il y a une volonté panafricaine à l'intérieur de cela, mais en même temps Jean-Claude Ganga c'est quelqu'un qui va essayer aussi au sein du SSA avec ses partenaires africains de ménager, on va dire, les différentes sensibilités entre les modérés, les panafricanistes, ceux qui sont plus proches de la mouvance socialiste marxiste notamment par exemple, puisque lui-même issu d'un pays, le Congo-Brazzaville, avec son président Massamba Déba qui a dès 63 à l'issue de son élection a pris fait et cause pour le marxisme et le communisme.
Ganga, donc, qui fut le secrétaire général du C2SA, qui fut aussi président donc, de l'ACNOA, mais qui, avec le C2SA, va rentrer dans une sorte de tête-à-tête contre le Comité international olympique. Ce sera même assez violent par moments.
Oui, puis c'est d'autant plus paradoxal que le CSSA, c'est une institution qui est l'émanation de divers paradoxes. La preuve en est que déjà, le CSSA est construit sur la structure de l'organisation des premiers Jeux africains, qui elle-même est une structure qui émane des Jeux de l'amitié organisés par la France dans la logique de coopération sportive franco-africaine qui ont lieu entre 60 et 63. Donc on voit une architecture politique qui vient en fait de quoi ? Des reliquats de la France-Afrique en fait, qui se déploient au niveau sportif et culturel à ce moment-là. Et puis, ça grège une deuxième dimension, là aussi paradoxale, c'est que les premiers fonds de fonctionnement, lorsque le CSSA est construit en 66, eh bien, ils proviennent du commission, qui est la commission d'aide internationale olympique, qui avait été créée en 60 par Beaumont, un Français, avec aussi Andrianov, un Soviétique, mais qui est une commission qui avait pour volonté d'aider à développer justement les anciens pays du tiers-monde pour le sport et l'olympisme, et qui va mourir, puisque Avril Brundage, le président du CIO à l'époque, a peur que cette institution ne devienne en fait un pont d'or pour l'apartheid. Et cette commission est dissoute en 64. Et malgré tout, il y a eu un appel à dons de financement à différents CNO du monde entier. Alors, ça n'a pas fait énormément d'émules et d'argent, puisque ça a permis d'avoir simplement 10 000 francs suisses. Mais assez étonnamment, ces fameux 10 000 francs suisses qui appartenaient au CIO ont été donnés à Jean-Claude Ganga pour constituer les premiers fonds de fonctionnement du Conseil supérieur du sport en Afrique. Alors même que c'est une instance qui n'est pas sportive, qui n'est pas olympique, mais qui est bien politique et qui va passer son temps jusqu'aux années 80 à ferrailler face au CIO sur la question de l'apartheid, comme vous l'avez évoqué.
Quelle empreinte va laisser dans le sport africain Jean-Claude Ganga ?
Alors, une empreinte assez controversée, malgré tout, il faut le dire, hein, puisque c'est quelqu'un qui quittera ses fonctions du CSSA en 79 hein, pour des questions de révélation de gestion fantaisiste ou des abus de pouvoir. Il sera par ailleurs ministre des Sports et du Tourisme dans son pays en 86. Il sera aussi ambassadeur en Chine pour son pays entre 82 et 85. On l'a dit, il sera président de l'ACNOA de 89 à 99. Donc, c'est quelqu'un qui va représenter l'Afrique et son pays dans les grandes instances internationales et pas que sportives. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter déjà hein, pour l'époque, avoir ces multifacettes de diplomatie, de politique, dans le mouvement sportif, c'est déjà important. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va quitter le CIO et les instances politiques par la petite porte, hein, mais avec quand même fracas, puisqu'il va être soupçonné, notamment à l'issue des Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City en 2002, d'avoir profité des informations privilégiées pour acheter des villas et les revendre à l'issue du vote, donc faire une plus-value, ce qui est évidemment interdite, ou encore de se faire soigner dans l'état de l'Utah gratis, quoi, pour rien du tout, ou encore recevoir du président du comité de candidature de ces Jeux une somme de $50 000. Donc tout ça va faire qu'il va être évidemment exclu du CIO en 99.
Merci Pascal Charitas, merci. L'Afrique en jeu, c'est terminé. Merci à la Sonothèque pour les archives et à Cécile Bonisset à la réalisation. Pour se quitter, je soumets à votre sagacité l'aphorisme de Nelson Mandela. Le sport peut créer de l'espoir, là où autrefois, il n'y avait que du désespoir. Nous nous retrouverons même heure, même endroit la semaine prochaine, en balado-diffusion dans les podcasts de votre application Pure Radio de RFI également. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous.